Nous avons avec nous aujourd'hui Farid Alilat. Il est journaliste et il est l'auteur du livre Bouteflika, l'histoire secrète, une biographie non autorisée sur la vie du 9e président de l'Algérie et celui qui aura le plus longtemps régné sur le plus grand pays d'Afrique. Nous parlerons ensemble de sa relation avec l'armée et sa fonction de guide suprême de la diplomatie algérienne. Welcome to MENA Defense Podcast, the first podcast talking about defense, security and geopolitics in the MENA region. Farid Alilat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur d'une biographie à succès sur la vie d'Abdelaziz Bouteflika. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de l'écrire et pourquoi la publier maintenant?
Alors, c'est la question que tout le monde me pose, enfin beaucoup de gens me posent. Pourquoi un livre sur Bouteflika et pourquoi maintenant? En fait, ce livre, c'est 20 ans de travail sur Bouteflika. Parce que j'ai commencé le projet d'écrire un livre sur Bouteflika en 2002, juste après la sortie de mon livre paru ici en France, qui s'appelle « Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts », sur la crise en Kabylie. C'est déjà quelque parle un livre sur Bouteflika, parce qu'il était aussi question de Bouteflika. Et donc, j'avais l'idée de faire un livre, une biographie de Bouteflika. On était à premier mandat. Donc, j'avais commencé des entretiens avec des personnes qui ont connu Bouteflika, des anciens compagnons qu'il a connus dans les années 60, 50 même, à Oujda, dans les années 60, 70, 80, des ministres, des officiers de l'armée, des généraux à la retraite. Mais donc j'avais cumulé déjà un peu de matière sur laquelle j'avais commencé à travailler, mais du fait de circonstances professionnelles et privées, je suis venu m'installer ici en France, en 2004, et donc je n'avais plus le temps à consacrer à l'écriture du livre. Mais pour autant, je suis journaliste à Jeune Afrique, je couvre l'Algérie depuis 2004, donc j'écris sur l'Algérie, je travaille sur l'Algérie, donc je suis amené très souvent à partir en Algérie, donc rencontrer des responsables, d'anciens responsables ou des responsables en exercice. Et donc, pendant toutes ces années, j'avais continué à travailler sur le personnage, soit en l'écrivant directement, soit en cumulant de la documentation avec l'idée que un jour, je l'écrirai ce livre. Et donc, mais chaque fois, je repoussais, si tu veux, l'idée d'écrire parce que je n'avais pas le temps, etc. Mais bon, cette année, il y a eu la révolution qui a chassé Bouteflika du pouvoir. La manière avec laquelle il a été chassé, tout ce qui s'est passé avant et après, pour moi, il était temps d'écrire ce livre. Il était temps de raconter ce que je sais, ce qu'on m'a raconté sur Bouteflika, qui est un personnage exceptionnel. Je vais m'expliquer sur le mot exceptionnel. C'est un personnage comme Bouteflika ne se produira plus jamais en Algérie. Pourquoi? Parce que il a vécu la guerre d'Algérie et les personnages qui ont vécu ou les acteurs de la guerre d'Algérie, il ne reste presque plus en vie. Il a vécu les années 60, où il était ministre des Affaires étrangères, les années 70. Il a fait une traversée du désert, entre guillemets, qui a duré 20 ans. Ensuite, il est revenu au pouvoir, il est resté 20 ans. Aucun président algérien n'est resté 20 ans. Et j'espère qu'aucun autre président algérien ne restera encore 20 ans. Il a connu tout, sa carrière se confond, sa carrière est longue de 60 ans. Cette longévité, elle est exceptionnelle. Plus aucun responsable algérien, aucun responsable algérien n'a eu cette longévité, cette carrière. Et donc, pour moi, Bouteflika, la vie de Bouteflika est un roman à rebondissement. Et donc, ça mérite qu'on s'y attarde. Et aucun président algérien n'a été chassé par une révolution comme celle-là. Donc, si vous voulez, tout ça fait que le parcours, la vie, les 20 ans de présidence, la révolution, fait que Bouteflika est un personnage de roman à raconter. Voilà.
Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, Farid. Donc, Bouteflika a été
Oui.
présenté comme le grand timonier de la diplomatie algérienne pendant les années 60 et 70. Quel est son
Oui.
véritable bilan à cette époque où Alger était considéré comme la Mecque des révolutionnaires? Et est-ce qu'on peut dire que il était le cœur de la diplomatie algérienne, ou bien n'était-ce qu'un mythe?
Alors, je vais embrayer par une anecdote qui m'a été racontée par deux diplomates algériens, deux ministres qui ont travaillé à Bouteflika. Et ils m'ont dit un jour, juste après l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, ils ont eu une rencontre avec le chef de l'État. Et au sortir de cette rencontre, les deux diplomates se sont tournés comme ça, l'un vers l'autre, et ils disent, ah, ce n'était qu'un mythe. Donc, si tu veux, il y a deux Bouteflika dans le chef de la diplomatie algérienne. Il y a le Bouteflika qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui a la réputation d'être le chef de la diplomatie algérienne, le sémillant diplomate, la voix de la diplomatie algérienne, le diplomate qui négocie avec les sommités de la diplomatie internationale. Ça, c'est l'image. C'est parce qu'une image d'Épinal. Parce que en discutant avec des gens, en recueillant les témoignages de gens qui ont travaillé avec lui, et je voulais préciser quelque chose qui est important. Pour la rédaction de mon livre, j'ai consulté toutes les archives de la diplomatie française et des services secrets français du SDEC qui ont été déclassifiés, ces archives des années 50, 60, 70 jusqu'à 80. Et ce sont des mines d'informations. Ces archives qui ont été déclassifiées, c'est une mine d'informations parce qu'elles racontent des secrets, elles racontent elles donnent des informations, elles donnent des analyses qui n'ont pas été portées à l'opinion publique. Qui ont été rédigées, faites, des mémos, des analyses, des informations faites par des services de renseignement, en même temps par des diplomates, qui donnent franchement une plongée dans la politique algérienne. Voilà. Pour revenir au personnage Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, pour moi, les personnes que j'ai consultées, c'était très nombreuses. Pour moi, il était la vitrine de la diplomatie française, algérienne plutôt. Il était, voilà, plutôt le porte-parole. Mais en réalité, il avait peu d'emprise sur les dossiers, sur les grands dossiers, parce que quand il est arrivé au pouvoir, Boumediene en 65, Boumediene c'est un militaire, c'est pas. Il était pas vraiment intéressé, enfin, il n'était pas très porté sur la diplomatie. 65, 65. Et à partir de 67, il a commencé à s'intéresser à la politique étrangère, à la diplomatie, et pour ne pas dépendre exclusivement, justement, de Bouteflika, il a mis en place ses propres réseaux, il a mis en place ses propres hommes, si bien que, au fil des années, il a mis en place une diplomatie parallèle qui parfois échappait à Bouteflika. Et j'ajoute à ceci, c'est que Bouteflika, comme ministre des Affaires étrangères, n'est pas réputé pour être un bosseur. C'est quelqu'un qui ne lit pas les dossiers. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Et c'est quelqu'un qui se rendait parce que rarement dans les bureaux, dans son bureau au ministère des Affaires étrangères, il préfère plutôt recevoir ses collaborateurs soit chez lui, soit dans une annexe du ministère. Il s'appuyait sur des compétences, des diplomates compétents, qui, si tu veux, qui lui mâchaient le travail. Mais c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui bossait sur les dossiers. Et surtout, il avait la réputation, bien sûr, de danseur, quelqu'un qui aime sortir. Et surtout, il avait la réputation d'être quelqu'un qui faisait des escapades, des absences, des bouderies, qui pouvaient durer parfois des semaines, voire un peu plus. Et d'ailleurs, ce que je raconte dans le livre, souvent, Boumediene allait voir le secrétaire général de la présidence, il lui disait « Il est où Abdelkader ?» Abdelkader, c'est le surnom de guerre de Bouteflika, Abdelkader Mali. Pour te dire que, non seulement il avait la réputation de quelqu'un qui ne bossait pas, mais aussi il avait la réputation de quelqu'un qui pouvait s'absenter pendant un laps de temps sans donner de nouvelles. Tout ça fait que Boumediene a mis en place une diplomatie parallèle, par exemple sur des dossiers très importants, comme par exemple le dossier des relations avec le Maroc et sur le Sahara occidental. Boumediene ne faisait pas confiance à Bouteflika. Le dossier du Maroc et du Sahara occidental, pour me dire, l'avait confié à Talb Ibrahimi. Et il avait aussi, sur le dossier du Sahara occidental, il s'était aussi appuyé énormément sur Qasdim Al-Bah, l'ancien patron de la sécurité militaire, parce que les relations avec le Maroc et la question du Sahara occidental dépendaient aussi fortement d'un aspect sécuritaire et de l'enseignement. Il s'était appuyé aussi sur Cheikh Belkacem, qui était son ancien compagnon, qui faisait partie du clan de d'Oujda, on appelle le clan d'Oujda. Donc, sur la question du Sahara occidental et du Maroc, il faisait très très peu confiance. Et un jour, d'ailleurs, Bouteflika est envoyé spécial, je crois qu'en 75, si ma mémoire est bonne, 75, Bouteflika sont à Rabat pour une mission, pour une audience avec Hassan II. Et à la sortie de l'audience, il fait une déclaration sur le Sahara occidental qui n'est pas conforme à la position officielle de l'Algérie. Quand il est entré, Boumediene était très en colère et il lui a dit: mais enfin, es-tu le ministre des Affaires étrangères de Hassan II ou le ministre des Affaires étrangères de Boumediene? C'est-à-dire le peu de confiance qu'il a. Sur le dossier des relations françaises, Boumediene s'appuie énormément sur deux personnes: Mohamed Bjaoui, qui était ambassadeur d'Algérie, sur Gharib, le président de l'Amicale des Algériens en Europe. Sur le dossier de la Palestine, l'un des dossiers qui tenait à cœur à Boumediene, et sur les relations avec le monde arabe, là aussi, c'était beaucoup Talb Ibrahimi qui était en charge. Et d'ailleurs, quand on regarde les archives, très très souvent, c'est Talib Ibrahimi qui représentait l'Algérie dans les sommets arabes à la place de Bouteflika, parce que Bouteflika boudait les sommets arabes. Et un jour, un ministre me raconte que le ministre koweïtien des Affaires étrangères, très gêné, un peu en colère, il apostrophe comme ça, enfin pas apostrophe, il s'ouvre à ce ministre algérien et lui dit: mais dites donc, votre ministre des Affaires étrangères, Bouteflika, il nous méprise, il nous boude, il vient presque jamais au sommet arabe. Donc, si tu veux, c'était un chef de diplomatie d'apparat. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais la vérité, c'est que beaucoup de dossiers de la diplomatie, de la politique étrangère, lui échappaient. Parce que Boudiel ne lui faisait pas confiance sur ces dossiers, et puis parce qu'il connaissait l'homme. Il savait qu'il pouvait disparaître, il savait qu'il ne travaillait pas les dossiers, mais Bouteflika avait deux avantages ou deux qualités. D'abord, il a une capacité de captation extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous lui racontez une anecdote ou une histoire ou un fait comme ça, il l'enregistre dans sa tête, il l'intègre comme ça dans la tête, il l'absorbe, il peut le restituer. Et donc, il a une capacité d'écoute et bien sûr de parole. Il a aussi l'avantage, c'est qu'il a une mémoire phénoménale. Il a une mémoire du passé phénoménale. Donc, il peut se souvenir de et cette mémoire lui a beaucoup servi parfois. Il a beaucoup servi quand il a été président.
Question curieuse, hein, vraiment pour ma propre curiosité. On dit que Abdelaziz Bouteflika ne parlait pas anglais. Est-ce que c'est vrai?
Oui, il ne maîtrise pas l'anglais. C'était pas un grand. C'est un excellent. Il parle très bien français, bien sûr, très bon arabe. Et d'ailleurs, il a été un brillant lycéen, hein, contrairement peut-être à l'idée que les gens se font. Il n'a pas eu son bac, bien sûr, mais il était un brillant lycéen. Et d'ailleurs, une anecdote, c'est que pour sa première année au lycée, il a eu de très bons résultats. Son père a reçu un coup de fil du Palais Royal pour le féliciter. Voilà.
Et en parlant, parce que là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, hein, qui est la fiabilité d'Abdelaziz Bouteflika en tant qu'homme politique avant d'être ministre des Affaires étrangères. On constate aussi qu'il n'a pas été associé au grand moment politique de Boumediene, donc le 19 juin, la nationalisation des hydrocarbures,
etc. Le 19 juin... Et le 19 juin, je pense que s'il n'y avait pas eu le cas Bouteflika, il n'y aurait pas eu de 19 juin. Je m'explique. Et d'ailleurs, Hervé Bourges, qui vient de disparaître, qui a travaillé au cabinet de Ben Bella, a dit de Bouteflika, il a dit que c'était le catalyseur du coup d'État. C'est-à-dire que c'est à partir du moment, c'est vrai que les relations étaient très tendues entre Boumediene et Ben Bella. Boumediene qui a aidé, qui a presque placé, qui a placé Ben Bella sur les chars de l'armée des frontières pour le mettre à la présidence. C'est vrai que au fil des années, la confiance s'est rompue entre les deux hommes, les relations se sont distendues, il y avait beaucoup de conflits, il y avait certainement des vérités de la part de Boumediene de prendre la place de Ben Bella. Mais c'est la décision de Ben Bella de limoger Bouteflika du poste de ministre des Affaires étrangères en 1965 qui a déclenché l'opération coup d'État. Et d'ailleurs, le jour où Tenbella reçoit Bouteflika pour lui dire « Je te relève de tes fonctions ». Boumediene était au Caire en mission et il est informé. Et il leur dit « Ne bouge, ne faites rien, ne bougez pas, j'arrive ». Et au moment où arrive Boumediene débarque du Caire, c'est là où a commencé la conjuration. Et Bouteflika a été un des cerveaux, si ce n'est pas le cerveau, pas le cerveau, mais un des cerveaux de ce coup d'État. Par contre, sur la nationalisation des hydrocarbures, il y a trois personnes qui étaient au courant du plan de nationalisation des hydrocarbures, un plan qui a été rédigé notamment par Abdeslam et Rosalie. Un plan de 55 pages. J'ai vu quelques feuilles. J'ai vu des documents concernant cette nationalisation des hydrocarbures. Il y avait trois personnes qui étaient au courant du projet. Houari Boumediene, Blaïd Abdeslam, Istamed Ouzeri. Pas plus de trois personnes. Boumediene, au départ, je ne vais pas rentrer dans les détails. Au départ, les négociations sur les hydrocarbures, enfin, sur les négociations entre l'Algérie et la France concernaient le volet des hydrocarbures. Donc, c'était Blaïd Abdeslam qui était en charge. Ensuite, les discussions ont été élargies à d'autres questions qui ne relèvent pas particulièrement des hydrocarbures. Donc le dossier. Abdeslam a été dessaisi de ce dossier et c'est Bouteflika, comme ministre des Affaires étrangères, qui a négocié avec son homologue français. Et là, on avait discuté sur tout le, pas uniquement sur les hydrocarbures. Bouteflika n'a jamais été tenu informé de ce plan des hydrocarbures. Non seulement ça, mais Boumediene se méfiait de Bouteflika. Il pensait. Il avait des informations, mais un des négociateurs qui me l'a dit, il avait des informations que Bouteflika travaillait contre la nationalisation des hydrocarbures, tout simplement. Voilà, je ne sais pas quel était son intérêt, mais il ne faut pas oublier que Bouteflika allait très souvent en France, en tant que ministre des Affaires étrangères, comme les services d'enseignement français le savaient très très bien ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français, disait, nous étions au courant de ses venues en France, et ça lui arrivait d'aller dans des endroits un peu, comment dirais-je, un peu particuliers. Donc, sur le dossier des hydrocarbures, Bouteflika a été totalement mis dans l'ignorance du plan initial. Et la preuve, c'est qu'il a appris la nationalisation des hydrocarbures au même moment que les Algériens, c'est-à-dire le 24 février. Pour moi, c'est une preuve que Boumediene ne lui faisait pas vraiment confiance, ou peu.
Justement, en parlant de Boumediene, après la mort du président Boumediene, Bouteflika entre dans une période qualifiée de traversée du désert, qui a duré
Oui,
pas mal d'années,
sur
hein.
lesquels il ne s'est jamais, sur lesquels il ne
Exprimé.
s'est jamais, jamais expliqué, jamais. Et moi, je consacre à peu près une cinquantaine de pages à cette période parce que j'ai pu retracer presque avec des précisions
Son parcours.
exactement où il a été, qu'est-ce qu'il a fait, avec qui, de comment il vivait, de quoi il vivait, ce qu'il pensait. En fait, contrairement à ce qu'il a dit, il n'a pas été exilé, il s'est exilé, il est parti de lui-même. Dès lors qu'il a été démis de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères en mars 1979, juste quelques semaines après l'élection de Boumediene, l'élection de Chadli Bouazizi, pardon. Chadli l'a nommé comme conseiller à la présidence, mais c'est une voie de garage. Et il a commencé à s'absenter petit à petit à Paris, en Suisse, jusqu'à ce qu'il s'installe. Il s'installe parce que il commence à s'installer définitivement en France à partir de 1980. Et là, donc il s'installe en France. Il fait des fréquents séjours entre Paris, Genève, où il a été pris en charge par des amis, son ami Mustapha Berri. Ensuite, il partait aux Émirats. Une escapade en Syrie en 83. Il a été hébergé dans une villa avec Carlos, le fameux preneur d'otages du ministre de l'OPEP de 75. Et j'ai pu recueillir le témoignage de Carlos qui m'a raconté comment il vivait avec Boutef, ce qu'il faisait. Donc, il y a une partie de mon livre qui est consacrée à son séjour à Damas. Et bien sûr, il a vécu aux Émirats, pris en charge par l'émir Cheikh Zayed. Il était logé, il avait une suite payée à l'année à l'hôtel intercontinental. Cheikh Zayed lui a offert plus tard une ferme à Abu Dhabi, et il travaillait aussi un peu comme conseiller diplomatique du Cheikh Zayed. Donc, et contrairement à ce qu'il a dit que Chadli l'a avéli, que Chadli l'a humilié, qu'il a été dépossédé, là, en 85. Il a été invité pour assister au 40e anniversaire de la création de l'ONU en tant que président d'une session de l'ONU en 74. Et donc, il a sollicité un passeport diplomatique auprès de Chadli, alors qu'il n'arrêtait pas de dénigrer Chadli et de le rendre responsable de tous ces malheurs. Donc, il avait sollicité auprès de Chadli Benjdid un passeport diplomatique. Et Chadli lui a fait remettre un passeport diplomatique, un billet aller-retour à New York, plus un chèque de 7500 francs. Et c'est la personne elle-même qui a remis ce chèque à Bouteflika et le passeport qui me la raconte. Et donc, d'un côté, il dénigrait Chadli, il le rendait responsable de tous ses malheurs, et d'un autre côté, il a tout le temps cherché à être dans les bonnes grâces de Chadli. Et donc, il faisait ses pérégrinations entre la France, Paris, Genève, Abu Dhabi, et il revient en Algérie en 87. La fin de l'exil, la fin de la traversée des déserts, 87, il a été invité à un colloque sur France Finlande, donc il est venu, il a fait une conférence. Ensuite, donc voilà, c'est fin de l'exil. Donc en fait, si tu veux, son exil a duré 7 ans. Et bien sûr, entre-temps, il a été condamné par la Cour des comptes en 1983 pour détournement de reliquats de budget des ambassades, des consulats d'Algérie par le monde. Il a reconnu, puisque je vais faire juste un petit rappel, c'est que de 65 jusqu'à 78, il avait donné des instructions à toutes les ambassades, à tous les consulats d'Algérie, de verser les reliquats, les excédents budgétaires ou les reliquats des budgets vers deux comptes à lui personnels, en Suisse. Donc, pendant de 65 jusqu'à 78, ce sont des millions de francs qui était versé dans ses deux comptes personnels. Et le 17 février 1979, c'est-à-dire même pas, je crois que si, bah même, parfois, je m'excuse auprès de ceux qui écoutent, parfois, mes mémoires des chiffres me font défaut. Je crois que Charlie a été élu le 8 février 1979. Le 17 février 1979, Chedli était dans son bureau, il était avec Talb Ibrahimi, Hamroche qui était à l'époque, Hamroche qui était à l'époque, chef de protocole, je crois, sonne à la porte de mon rentre, il dit, voilà, Monsieur le Président, il y a Bouteflika qui souhaite vous voir. Et Chedli lui dit, fais-le rentrer. Et donc, Bouteflika rentre, dans sa main, une enveloppe, et dans l'enveloppe, il y a un chèque. Et il tend le chèque au président. Chedli lui dit, qu'est-ce que c'est que ce chèque? Et il lui dit, c'est son, voilà, c'est le reliquat des budgets qui a été versé sur mes deux comptes. Il lui a dit, mais pourquoi? Il lui a dit, c'est pour construire le siège du ministère des Affaires étrangères. Chedli lui a dit, mais c'est pas à vous de construire. C'est une subvention publique. Et il lui dit, tu remets ce chèque au ministre des Finances, qui était à l'époque Mohamed Sidik Ben Yahia, avec toutes les justificatifs. Toutes. Voilà. Et il sort. Et quelques jours plus tard, Chedli, au cours d'une réunion du bureau politique du FNR, tous les responsables, il dit à Ben Yahia, au fait, est-ce que Bouteflika est venu te remettre le chèque avec les justificatifs? Ben Yahia lui dit, devant tout le monde, il lui dit oui. Et au sortir de la réunion, Ben Yahia va voir le président, il lui a dit, Monsieur le Président, je voulais vous dire quelque chose. Il lui a dit tout à l'heure, je ne vous ai pas dit la vérité parce que je ne voulais pas humilier Bouteflika devant tout le monde, il m'a pas remis ni chèque ni justification. Et c'est là où Chedli décide de. Il ordonne à Ben Yahia de lancer des investigations sur ses comptes. Donc il y a eu toute une commission d'enquête des gens qui sont partis en Suisse. Bouteflika a un peu collaboré avec eux, il a remboursé une partie, mais il n'a pas remboursé toute la partie. Tout. Et donc, au bout de presque 2 ans et demi, d'enquête, donc la Cour des comptes condamne Bouteflika à pour détournement et le condamne à rembourser. Par contre, ce que Chedli a dit, il a dit je m'engage, il a dit devant des personnes, dont une était présente pendant cette réunion qui me raconte, il a dit, je m'engage à ne pas mettre aucun membre du Conseil de la Révolution en prison. Et pourtant, malgré le fait que la Cour des comptes a condamné Bouteflika, Chedli tenait à ce qu'il n'y ait pas de procès, c'est-à-dire que le dossier de Bouteflika n'a pas été transmis à la justice. Donc il n'a pas, si tu veux, Bouteflika n'a pas été jugé par un tribunal. Donc il n'a pas été condamné. Bon, voilà. En 83, 93, il est sollicité par les militaires à l'expiration du mandat du RCE. Il fallait désigner un président de l'État. Donc les militaires l'ont sollicité, encore une fois, soi-disant parce que c'est un diplomate, il a de l'expérience. Et donc il a négocié pendant des semaines avec les militaires, qui ont accepté toutes les conditions. Il avait posé toutes les conditions. Je veux rencontrer les chefs de région militaire, je veux rencontrer le haut commandement de l'armée, je veux rencontrer les principaux généraux, je veux avoir tous les pouvoirs, je ne veux pas de vice-président. Et donc les militaires ont accepté toutes ces conditions. Et le jour où il devait rendre la décision, il a refusé, il est parti en Suisse. Je pense, hein. Je pense que il voulait prendre sa revanche sur les militaires qui l'ont écarté de la succession de Bouteflika, de Boumedienne en 78. C'est presque de la, jouissance que de voir ces militaires qui l'ont écarté venir le supplier d'être président. Ça, c'est une revanche. Et pour lui, c'est un goût de revanche. Et à partir du moment où on est arrivé aux choses sérieuses, maintenant, tu acceptes ou pas? Et là, je pense qu'il avait eu peur, parce qu'il avait peur d'assumer les fonctions, la responsabilité. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, le terrorisme était à son apogée. On était, voilà, et des dizaines de morts par jour. L'Algérie était presque mise en quarantaine par la communauté internationale. La situation économique était catastrophique. La dette extérieure du pays était presque de 32, 33 milliards. C'était une situation. Le pays était dans une situation extrêmement critique. Je pense qu'il avait peur d'assumer ses responsabilités et donc il a décidé de fuir en Suisse. Et ça ne l'a pas empêché de revenir au pouvoir. Ça n'a pas empêché de revenir chercher ce pouvoir en 98, juste après la démission de Zerwal. Et
Justement,
là,
on est en avril 99, il devient président. Que se passe-t-il dans sa tête concernant la diplomatie? Oublions le reste, oublions la politique, oublions le pouvoir, mais comment voit-il, avec ses yeux d'ancien ministre des AE, la diplomatie algérienne?
Alors, je te raconte une anecdote. En décembre 1999, il forme son premier gouvernement. Il nomme Youssef Youssefi, qui est aujourd'hui en prison, condamné à 10 ans de prison. Il le nomme ministre des Affaires étrangères. Youssef Youssefi, qui n'est pas du tout issu du rang de la diplomatie. Et Youssef Youssefi va le voir pour le féliciter de lui avoir confié ce portefeuille. Bouteflika lui dit, le regarde en ricanant comme ça, il lui dit, parce que tu penses que tu vas t'occuper de la diplomatie? Ce que, encore une fois, souviens-toi, il a dit un jour, je suis le président, je suis le chef du gouvernement, je suis le rédacteur en chef de la télé, je suis le patron le patron de la télé, c'est-à-dire qu'il est à la fois le chef de Daïra, il est à la fois président et il est tout à la fois et rien à la fois. Et donc, il est élu. Il faut pas oublier aussi que pendant la campagne électorale, il a joué justement sur cette image de chef de la diplomatie, de grand diplomate, d'ami des puissances étrangères. Et c'est vrai que le premier mandat, il avait beaucoup voyagé. Il avait beaucoup parlé. Et d'ailleurs, on le surnomme le président voyageur et président parleur. Il a beaucoup reçu de chefs d'État, dignitaires. Il a fait une visite d'État en France, il a reçu Chirac deux fois à Alger. Il a reçu beaucoup de chefs d'État. Souviens-toi aussi, il a vendu sa candidature ou son projet sur l'idée qu'il fallait restaurer l'image de l'Algérie à l'international qui était écornée. Donc, il s'était beaucoup investi à titre personnel dans cette diplomatie. Mais pour moi, il y a eu trois présidents en Bouteflika. Il y a le premier président, il y a eu la première phase, élection 99-2005. C'est là où il était en pleine possession de ses moyens. Il était plus ou moins en bonne santé. Il avait beaucoup voyagé à l'extérieur du pays, à l'intérieur. Il avait reçu beaucoup de chefs d'État. Et ensuite, il y a une deuxième phase, une deuxième présidence. C'est juste après l'ulcère hémorragique de 2005. Souviens-toi, il avait séjourné au Val-de-Grâce. Il avait même admis qu'il a frôlé la mort. Et là, c'est une nouvelle phase qui commence, celle d'un président affecté psychologiquement et physiquement par l'épreuve qu'il a traversée. Il cède petit à petit le terrain, les prérogatives à son frère. Ça aide Bouteflika. Il travaille moins, déjà il ne travaille pas beaucoup, il travaille moins, il voyage moins. Et toi qui connais les affaires sécuritaires, n'oublie pas qu'il a fait l'objet d'une tentative d'attentat à Batna. D'attentat kamikaze, c'était en 2007, je crois, non?
2007,
Tu te
oui.
souviens? Voilà. Et ça aussi, ça l'a énormément affecté. Donc là, on commençait à avoir petit à petit le président en retrait. Et c'est là où son frère devient une sorte de régent, une sorte de président de bis. Ensuite, il y a la troisième phase, celle de l'AVC de 2013, où il est devenu un président fantomatique, c'est-à-dire qu'il ne parle plus, il ne voyageait plus. Et d'ailleurs, il ne s'est plus jamais adressé aux Algériens depuis mai 2012. Et c'est là où il est totalement en retrait. Et même symboliquement, le cœur du pouvoir, c'est-à-dire le palais des Mouradia, s'est déplacé d'Alger vers Zeralda. Il s'est complètement, presque totalement coupé de ses collaborateurs, premier ministre, tout ça. La seule courroie de transmission, c'est ou l'interface, c'est Saïd. Le président a décidé, donné ses instructions, et ça a été répercuté à tous les responsables. Et pour revenir à la question de la diplomatie, la voix de l'Algérie s'est tue à l'image de son président. La présence de l'Algérie s'est éclipsée à l'image de son président. Est-ce que depuis 2013, l'Algérie n'a jamais été représentée par son président dans les grands événements ou dans les grands sommets internationaux? Je te donne un exemple. Depuis 2013, le président algérien n'a jamais assisté au sommet de l'UEA. Et ce n'est que cette année, avec l'élection de Tebboune, que l'Algérie renoue avec le sommet le recul ou l'absence de la diplomatie algérienne a laissé la place à la diplomatie marocaine en Afrique. L'Algérie, qui avait son prolongement dans l'Afrique pendant les années 60, 70, jusqu'aux années 80, s'est totalement désengagée de l'Afrique. Est-ce que Chedli Benjdid avait fait beaucoup de visites d'État en Afrique? Zerwell, qui est resté 3 ans au pouvoir, 95-98, 4 ans, 3 ans, ouais, 4 ans, a effectué des visites d'État, des visites officielles en Afrique. En 20 ans, Bouteflika n'a jamais effectué de visites officielles ou des visites d'État en Afrique. Sur la question de la Palestine, on parle même pas de la période Boumedienne. Parlons de la période de Chedli. La proclamation de l'État palestinien s'est faite en Alger. Combien de fois Yasser Arafat a été reçu à Alger du temps de Chedli? Combien de fois il a été reçu du temps de Zerouane? Combien de fois Bouteflika a reçu Yasser Arafat à Alger? Une fois, je crois. Une fois. L'Algérie s'est totalement désengagée sur la question de la Palestine. Le Sahara occidental, la même chose. Donc, si tu veux, je ne parle même pas de l'accord de l'Union européenne qui a été négocié au grand désavantage de l'Algérie. Voilà. Donc, l'image de la diplomatie algérienne est devenue l'otage d'un président qui était effacé, comme je dis tout à l'heure, fantomatique. Maintenant, avec un président actif, enfin, je ne préjuge pas de ce que va être la présidence de Tepoune, mais je constate simplement que il a assisté au sommet de l'OIA, il a reçu des responsables italiens ici à Alger, pardon, à Alger, pardon. Il a fait une visite d'État en Arabie Saoudite. Il y a un redéploiement de la diplomatie algérienne. Je ne sais pas quels vont être les fruits ou les résultats, mais pendant une grande partie du règne de Bouteflika, l'Algérie était absente.
Justement,
Voilà, sur la scène.
depuis 2013, et cette troisième phase dont tu parlais très justement, l'Algérie s'est retrouvée face à des problématiques régionales très graves, hein, le Sahel, l'intervention française, la Libye, l'effondrement de l'État libyen et la guerre civile. À ce moment, l'Algérie n'avait plus de tête. On pouvait même dire que l'Algérie était brain dead. Donc, elle était morte cérébralement. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu ce débat, en fait, que la question de l'interventionnisme, par exemple, militaire de l'Algérie, qui devait à ce moment-là, qui aurait pu faire quelque chose et qui devait peut-être faire quelque chose, avait été évacuée à cause justement de cette maladie. Qu'est-ce que vous en
Parce
pensez?
que
Qu'est-ce que tu en
pas
penses?
simplement parce que alors c'est pas parce que c'est pas uniquement à cause de la maladie, parce que à cause du mode de gouvernance de Bouteflika. Bouteflika, c'est l'adepte de l'hyper-présidentialisation du pouvoir, c'est-à-dire que c'est lui le chef, c'est lui qui décide et les autres sont des collaborateurs. Il ne délègue pas, il n'a confiance en personne sauf en sa famille, donc il ne délègue pas. Il pense qu'il détient la science infuse et que les autres, ce sont des collaborateurs. Si bien que, tu sais, je vais te donner une anecdote. Ça, c'est un premier ministre qui me raconte ça. Il me dit que très souvent, quand il rentre dans le bureau de Bouteflika, il n'arrivait pas à le voir tellement les paraphernalia s'amoncelaient sur son bureau. Parce qu'il ne lit pas. Les seules notes qu'il lit, ce sont les notes diplomatiques. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui délègue, ce n'est pas quelqu'un qui fait confiance, ce n'est pas quelqu'un qui fait travailler les autres. Notamment, surtout, sur le volet de la diplomatie. Donc, si c'était quelqu'un qui écoute, qui délègue, qui fait confiance aux autres, même en cas d'absence ou même en cas de maladie, les autres pouvaient prendre le relais. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est d'abord la nature de Bouteflika. Puis, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un d'extrêmement méfiant. Et donc, il y a ça. Et la deuxième des choses, bien sûr, il y a la maladie. Le fait de ne pas faire confiance, le fait de travailler en solitaire, de ne pas déléguer, et bien sûr, cette maladie handicapante, fait que, comme je dis, la voix de l'Algérie, je vais te raconter une anecdote. C'est un scoop que je donne dans le livre. L'attaque de Tiguen Touré à In Amenas, janvier 2013. Prise d'otage, 800-900 personnes,
Qu'on a
des
vécu
dizaines
ensemble,
d'étrangers,
Farid, hein?
qu'on a vécu ensemble. Le premier jour, il y a eu, je ne me souviens pas combien de morts, mais c'est une attaque qui a été vécue. Que nous avions vécu à l'échelle mondiale, parce que c'est une attaque d'une ampleur extraordinaire. Un site gazier qui est attaqué par un groupe terroriste au cœur de l'industrie pétrolière algérienne, avec des dizaines d'otages de différentes nationalités. Le premier jour, Bouteflika était à Alger. Il reçoit un premier coup de fil de François Hollande. Il y a une discussion entre les deux chefs d'État. Ensuite, Bouteflika prend l'avion et il part en Suisse. Et il reste en Suisse jusqu'à la fin de la crise. Les chefs d'État étrangers cherchent à entrer en contact avec lui. Barack Obama cherche à entrer en contact avec Bouteflika. Il ne le trouve pas. Le Premier ministre britannique cherche à entrer en contact avec lui. Il ne le trouve pas. Le Premier ministre japonais, dont les ressortissants ont été tués pendant l'attaque, cherche à le contact. C'est Sellel qui est resté à Alger, qui a servi d'interlocuteur avec les dirigeants étrangers. Et d'ailleurs, Sellel, si tu regardes, moi j'ai la citation, je l'ai mise dans le livre, si tu regardes les archives, Sellel dit pendant la crise, c'est moi qui ai servi de. Je n'ai pas arrêté de discuter avec les responsables étrangers. Pourquoi lui? Parce que Bouteflika était en fuite à l'étranger. Bon, ça te résume un peu le personnage.
Tout
Extraordinaire
à
quand même.
fait. Tout à fait. Et qu'en est-il de la relation d'Abdelaziz Bouteflika avec l'armée depuis, enfin, pendant son règne, pendant ses 20 années de règne?
Alors, d'abord une chose. Ce sont les militaires qui l'ont nommé président. Il a négocié pendant plusieurs mois, principalement avec deux généraux. Et il y avait une personne, un ancien général, Larbi Blakhir, qui a servi de liant, qui a servi d'intermédiaire. Donc c'est Larbi Blakhir qui a vendu la candidature de Bouteflika d'abord à Lamari, général Ahmed Lamari, à l'époque chef d'état-major de l'armée, ensuite à Mohamed Bendine Toufik, patron du DRS, et à Nizar. Les trois principaux, les trois responsables, étaient échaudés par l'épisode de 1994. Donc ils voulaient pas entendre parler de Bouteflika. Il a fallu des semaines de discussions, de persuasion pour que Larbi Blakhir arrive à arracher l'accord de Lamari et de Toufir pour adouber Bouteflika. Et la dernière rencontre s'est déroulée au ministère de la Défense entre Bouteflika, Lamari et Toufir, je crois, le 25 décembre 1998. C'est là où ils ont scellé l'accord. Et d'ailleurs, juste après la réunion, Blakhir appelle un de ses copains, il lui dit, c'est gagné, c'est Bouteflika qui est désigné, qui sera président. Donc, il a été installé par, il a été choisi par les militaires. Ensuite, tout l'engineering autour, tu connais, le candidat du consensus, etc., etc. Donc, il est arrivé au pouvoir avec le concours des militaires, des généraux. Et dès sa prise du pouvoir, il a croisé le fer avec. Tu souviens-toi quand il parlait des 15 généraux, des chats qui vont bouffer, voilà. Il a installé une relation de défiance, de méfiance avec les militaires. Si bien que, à l'approche de la fin de son premier mandat, et ceux qui l'ont installé à la présidence, je parle bien de Lamari a regretté le choix de Bouteflika. Et souviens-toi, il avait dit, nous avions choisi le moins mauvais des candidats. Toufik aussi s'est rendu compte que c'était un mauvais casting, Pour Nazar, n'en parlons pas, il avait écrit un pamphlet contre Bouteflika. Il s'appelle Le Sultanat de Bouteflika. Donc, les trois personnes qui l'ont adoubé se sont retournées contre eux. Mais comme Bouteflika, c'est quelqu'un de très manigancier, qui sait, connaît la psychologie des gens, qui connaît les dossiers, tu vois. Et donc, il a joué, en 2004, il a joué l'état-major contre le service de renseignement, Taoufik. Si bien que, quand il a été réélu en 2004, il a été réélu grâce à l'appui du TRS, mais pas avec celui de l'état-major. L'état-major qui ne voulait pas, je veux dire, la marine ne voulait pas de Bouteflika. Et la preuve, c'est que 3 mois après, Bouteflika a été élu en avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois après, 5 mois, la marine démissionne. Et quand la marine démissionne, à qui Bouteflika confie l'état-major? Il le confie à Ahmed Gaïd Salah que la Mali voulait écarter déjà en 2003. Et donc, non seulement il a eu l'appui du service d'intelligence en la personne de Taoufik, qui a été d'une loyauté et d'une fidélité indéfectible vis-à-vis de lui. Mais il a mis à la tête de l'état-major quelqu'un qui lui sera encore fidèle, Gaïd Salah, si bien que il a normalisé, il a pacifié. À partir de 2004, il n'y a plus presque de conflit avec l'armée, puisqu'il contrôle l'armée. Et il a l'appui de l'état-major, l'appui des services de renseignement. Et celui qui lui a permis d'arriver à El Moradia, l'armée blachienne, il l'écarte en 2005. Nazar n'a plus d'influence. La marine a démissionné. Donc, il n'est plus redevable à qui que ce soit. Donc là, il met la mainmise sur l'État. Et quand il avait émis le vœu de changer la constitution de 96, qui limitait les mandats à deux, donc il avait émis le vœu en 2008 de changer la constitution pour faire un troisième mandat en 2009, il a eu un appui total des services de renseignement de Taoufik et de l'armée. À aucun moment, ils l'ont refusé, alors qu'ils auraient pu. Au moins donner un avis en disant, oh, Monsieur le Président, c'est un viol de la Constitution. Il a eu l'appui de l'armée et des services d'enseignement pour faire un troisième mandat, plus un appui pour faire un quatrième mandat, et il a eu l'appui de l'état-major pour faire un cinquième mandat. Donc, sans oublier le fait que il a promis de nouveaux officiers, nouveaux généraux qui lui sont redevables, et aussi de nouveaux des officiers, des généraux qui sont sortis dans des écoles algériennes, des académies, des instituts, des écoles algériennes, qui ont fait des études à l'étranger, de brillants officiers que tu connais, tu connais. Si tu veux, le collège de généraux faiseurs de rois ou influents, avec lesquels il est venu en 99, ils ont disparu petit à petit. Certains sont morts, comme Lamari, Belkhir Ismail Lamari, d'autres à la retraite, comme Nazar ou Ghziel. Donc il est devenu seul maître du pays. Et contrairement à ce qu'on pensait, les militaires n'ont jamais empêché Bouteflika de gouverner. Ils ont été ses alliés. Moi, je voudrais bien. Et contrairement à ce qu'on dit, les militaires ne nommaient pas les premiers ministres ou les ministres. C'est Saïd qui nommait les premiers ministres ou les ministres. C'est Ali Haddad qui nommait des ministres. Peut-être qu'un général, ou je ne sais pas, peut donner son avis ou appuyer un poulain à lui. Mais celui qui connaît Boutfliqa, ce n'est pas quelqu'un qui partage. Tu ne peux pas lui faire dicter le choix d'un premier ministre ou d'un ministre, tu vois, s'il ne veut pas. Donc, ils l'ont jamais empêché de travailler. Et ce n'est pas quelqu'un qui partage le pouvoir. Et donc, pour moi, Bouteflika est arrivé en 99. Il y avait un logiciel qui fonctionnait depuis les années 80, 60, 70, 80. Et petit à petit, il a changé le logiciel. Moi, je ne souscris pas à cette idée de système. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, c'est des hommes. Système, c'est des règles, c'est des codes, c'est des pratiques. Et ces codes, ces pratiques, ce sont des hommes qui les mettent en musique. Or, Bouteflika a totalement changé les hommes qui étaient en place avant son arrivée. Je te dis, soit ils sont morts, soit ils ont été écartés à la retraite. Donc, si tu veux, le personnel politique qu'il avait trouvé déjà en 80, il avait complètement changé. Si bien que, à la fin de son règne, il avait, bien avant aussi, mais allez, à la fin de son règne, il avait absolument tous les leviers du pouvoir entre les mains. Je peux te les citer. Il avait la présidence, le gouvernement, les services de renseignement, l'armée, le parlement, les partis politiques, les médias, les hommes d'affaires, l'argent, les zaouïas, les syndicats et la bienveillance des puissances étrangères. Tu es d'accord avec moi?
Tout à fait d'accord.
Alors, quel est le contre-pouvoir au pouvoir de Bouteflika? Il n'y en avait strictement rien du tout. Il y avait un petit contre-pouvoir qui représentait un peu la presse privée qui n'avait pas vraiment d'influence. Absolument rien ne pouvait empêcher Bouteflika d'exercer ses fonctions. Et quand on parle de clan, moi je dis, moi je peux nommer un clan, je peux le désigner, je peux expliquer qui l'anime, de quoi il est composé. C'est le clan présidentiel, mais je suis incapable d'identifier l'autre clan. Il y a un clan présidentiel qui avait tout, absolument toutes les cartes en main. Il y avait une chose qui échappait à Bouteflika. Et c'est ça qui a causé sa perte. C'est les réseaux sociaux. C'est ça le contre-pouvoir qu'il a. Bien sûr, les réseaux sociaux, bien sûr, les réseaux sociaux, ce sont les Algériens. Mais c'est le seul contre-pouvoir qui lui est échappé. Et la révolution du 22 février qui a chassé Bouteflika, c'est d'abord aussi, c'est une révolution qui s'est construite dans les réseaux sociaux. À la fin de sa vie, à la fin de son mandat, il avait tout. Il avait tout, tout, tous les pouvoirs. Et bien sûr, il avait laminé les services d'enseignement, il a démantelé les services d'enseignement pour une chose très simple. Hein, quand il avait commencé à démanteler les services d'enseignement en 2013, c'est pas pour les réorganiser. Il avait décidé de démanteler les services d'enseignement en 2013 parce qu'ils ont enquêté sur des affaires de corruption sur lesquelles ses proches, ses ministres sont impliqués. Et la preuve, c'est Bien sûr, tout prévenu est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité. La preuve, c'est que presque tout son gouvernement est en prison aujourd'hui pour des affaires de corruption. Le DRS a été démantelé, non pas pour des raisons de réorganisation des services de renseignement pour plus d'efficacité, mais parce qu'ils ont enquêté sur les affaires de corruption dans lesquelles Chekib Khalil était impliqué, Amar Ghol était impliqué, Amar Saïdani était impliqué, Sellel était impliqué, tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que le service d'enseignement était démantelé. Et d'ailleurs, si tu veux, quand tu lis la déposition de Toufir au procès de Blida, il dit que des décisions concernant des intérêts stratégiques concernant la sécurité de l'État ont été prises à Paris pendant l'hospitalisation de Bouteflika en 2013 au Val-de-Grâce. Donc, voilà. À la fin de son règne, il avait toutes les cartes en main. Il avait absolument rien qui pouvait s'opposer à lui, sauf ce contre-pouvoir qui était les réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux, ce sont les Algériens et les Algériennes, toutes les catégories sociales. Et regarde, moi, c'est un constat que je fais qui ne me surprend pas. Bouteflika a mis 20 ans à consolider son pouvoir. Parfois, il a arraché le pouvoir, hein, arraché presque des mains des militaires, quoi. Il a mis 20 ans à consolider son pouvoir. Régime, je veux dire, le régime. Combien de temps a mis le régime de Bouteflika pour tomber?
Un mois.
40 jours. 40 jours. Entre le 22 février et le 2 avril, c'est passé 40 jours. C'est là où tu te rends compte. Pour moi, c'est la preuve que Bouteflika n'a pas bâti un État, mais il a bâti un régime qui devait lui permettre de vivre, de survivre et de durer. Donc il était fondé sur rien du tout. Il était fondé sur la soumission, sur l'esbrouf, sur la corruption, sur l'allégeance, et qu'il n'y avait absolument rien de solide. Tu ne peux pas bâtir un État solide avec des hommes corrompus, des hommes qui ont les mains sales, c'est pas possible, ou des hommes qui sont impopulaires. Et donc au premier soulèvement, première manifestation, il commençait à s'ébranler petit à petit et jusqu'à ce qu'il s'effondre. Bouteflika a bâti pour moi, bâti un régime qui était censé lui permettre de durer le plus longtemps possible au pouvoir. Mais en même temps, pour moi, c'est Bouteflika qui a ensemencé cette révolution. C'est une révolution qui a duré, c'est une grossesse qui a duré plusieurs années. Et c'est Bouteflika qui l'a ensemencé, qui l'a engrossé, cette révolution, avec tout ce qu'il a fait. Et la dernière goutte qui a fait exploser, c'est sa candidature à un cinquième mandat.
Je pense que c'est le moment de conclure. Magnifique conclusion, oui, d'ailleurs, hein, sur l'écroulement de l'édifice qu'on bâtit sur une cinquantaine d'années ou même une soixantaine d'années, comme vous le disiez, par Abdelaziz Bouteflika. J'invite les auditeurs à lire le livre de Farid Alilat, Bouteflika, l'histoire secrète, aux éditions du Rocher. Il sera bientôt disponible en Algérie.
Oui, bien, je n'ai pas de date, mais on est en discussion avec un éditeur algérien, donc on espère que d'ici avril, il sera disponible en Algérie.
Merci beaucoup, Farid.
Merci, Akram.
Merci pour votre écoute. Je serai très curieux de lire vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Mena Défense et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir tous nos nouveaux épisodes.